France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, la presse bon marché et les paparazzi auraient au fait de harceler le couple que je vous propose de suivre aujourd'hui, un des plus fameux du romantisme, de suivre, non pas en violant son intimité, mais en lisant les impressions soigneusement consignées par l'un des deux membres de ce couple, pas l'écrivaine George Sand, mais par son compagnon d'alors, Frédéric Chopin. Je vous invite ainsi à nous plonger dans le journal que Chopin a rédigé de retour de son séjour à Majorque avec George Sand durant l'hiver 1838-1839. Après quelques mois difficiles, pluvieux et froids, passés sur l'île, les deux amants se rendent dans le centre de la France où Chopin va découvrir le domaine de Nohant où la romancière avait grandi. Mais plus que la géographie de Majorque à Nohant, les écrits de Chopin nous font découvrir le relief de sa musique et en particulier celui de ses préludes, présentés comme une carte très précise de ses états d'âme. Et pour en analyser les subtiles nuances, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Yves Clément, auteur de plusieurs ouvrages sur Chopin et directeur artistique du Festival Chopin de Nohant. Les deux premiers des 24 préludes de Frédéric Chopin sous les doigts d'Evgeny Kissin. Bonjour Jean-Yves Clément.
Bonjour.
Vous venez donc présenter Le Retour de Majorque, journal de Frédéric Chopin, qui vient de paraître chez Pierre-Guillaume Deroux. Alors, journal de Frédéric Chopin, peut-être que certains spécialistes vont un peu s'inquiéter ou tiquer, ou dire tiens, c'est une archive nouvellement découverte.
On va dire que je suis Chopin et que nous sommes le 1er avril, c'est ça?
Voilà, exactement.
Non, je me suis mis dans sa peau, oui. Ouais. Crime littéraire et musical peut-être, mais qui m'obsédait depuis un moment, comme les préludes, l'œuvre phare de Majorque m'obsède aussi, et tout Chopin en vérité. Mmh. C'est pas pour rien que je co-dirige le Festival de Nohant dont vous avez parlé. Voilà, j'ai écrit plusieurs livres déjà à son sujet.
Oui, et vous dites que pour vous, les préludes, c'est vraiment peut-être la porte d'entrée la plus révélatrice pour pénétrer l'univers de Frédéric Chopin.
Oui, c'est 24 états d'âme, comme ça, microscopiques, qui reflètent son état très contrasté de l'époque. Et en général, sa psyché, à mon avis, très clivée. Et c'est pour ça que les préludes très extatiques, très heureux, très joyeux, alternent avec ceux d'une profonde dépression. Et en plus, il invente, à mon avis, un langage très moderne avec cet aspect aphoristique, donc tout ça me plaît ô combien depuis toujours.
Mmh. Votre livre est divisé en plusieurs chapitres courts de 2 ou 3 pages, comme bref, ouais, et elliptique, ouais, ouais. On va dire comme les préludes, et l'essentiel de votre livre, et d'ailleurs chacun des chapitres est consacré à un prélude, mais pas que. Je voudrais, avant qu'on rentre un peu dans l'univers de ces 24 préludes que Chopin, si ce n'est totalement achevé à Majorque, mais a quand même en grande partie établi, même s'il se basait sur des esquisses précédemment élaborées, le contexte. Avant donc ce séjour à Majorque, Chopin et George Sand, en quelques mots, et ce voyage. Il se décide en novembre 1838.
Oui, ils se rencontrent déjà en 36, oui, chez Liszt, par l'intermédiaire de Franz, quoi, et de Marie Dagout. Oui. Déjà ce trio magique. Et puis bon, il y a beaucoup d'atermoiements dans cette relation, mais ils sont ensemble, on dirait aujourd'hui, en 1838. En juin 38, apparemment, Louis Delacroix, la chose est consommée. Et tout de suite, ils imaginent, un peu comme Sand avait fait avec Musset à Venise, une sorte de voyage de noces. Alors à l'époque, l'exotique, c'était d'aller à Majorque, en Espagne, au Baléares. Ils ont dit pourquoi pas. Et puis Chopin avait besoin de refaire ses poumons, si je puis dire. Georges avait besoin de se faire oublier. Il y avait un de ses précepteurs qui lui courait après.
Parce qu'elle avait donc une vie sentimentale tourmentée, Georges Sand.
Un petit peu, oui. Et donc ça les arrangeait bien tous les deux. Et puis ils étaient amoureux. Et puis,
mais il n'était pas tout seul. Parce que Georges avait ses deux enfants.
Bien sûr. Maurice, c'était une équipée familiale.
Et Maurice, 15 ans, et Solange, 10 ans.
Qui a fait des croquis merveilleux, d'ailleurs. De l'endroit qu'on peut voir à Majorque au musée Chopin, parce que tout ça existe tel quel et c'est sublime.
Ouais.
Valdemossa, faut y aller et voir les croquis que Rosa Caplonche maintient avec ferveur là-bas.
Parce que donc ils arrivent en novembre sur l'île, ils s'installent d'abord dans une villa et puis ensuite dans la
fameuse chartreuse de Valdemossa qui est au-dessus et qui a ce paysage que vous connaissez peut-être, surnaturel, fantasmagorique, qui correspond exactement à la description qu'en donne George Sand dans Un hiver en Majorque, qui reste un texte sublime qu'elle a écrit a posteriori. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est à la fois d'écrire dans la bouche de Chopin ce qu'il a ressenti de ce voyage, étape par étape jusqu'au retour, mais c'était pas assez simple. L'exercice littéraire pour moi consistait à lui faire parler lui-même, ce qui est une audace, je vous le laisse croire, de ces 24 préludes. Donc après, chaque étape correspond à un prélude qu'il détaille jusqu'à l'arrivée du 1er juin à Nohant, où là c'est un nouveau monde qui s'oppose à l'ancien monde, on dirait aujourd'hui, de Majorque, c'est Nohant.
Jean-Yves Clément, c'est très beau de vouloir reprendre la place de Frédéric Chopin, mais sur quoi vous êtes-vous basé pour établir votre texte? Est-ce qu'il y a des textes de lui-même, de Chopin, sur lesquels on peut travailler?
Il n'y a pas grand-chose, comme d'habitude chez lui, mais ce n'est pas du tout quelqu'un de littéraire, Chopin, donc justement, il y a toute la place à prendre. Mais surtout, c'est la proximité que j'ai avec lui qui m'étonne toujours, qui a fait que je ne pouvais pas ne pas parler par sa bouche. Et puis c'est ça l'exercice de style. Alors après, on peut estimer ça complètement audacieux ou présomptueux, mais en même temps, c'est une fiction, c'est un roman, mais c'est pas juste un livre sur la musique, pas du tout même presque. La musique est un prétexte. Thank you.
Frédéric Chopin, les préludes numéro 7-8, interprétés par Maurizio Pollini. Jean-Yves Clément, ce voyage donc de Georges Sand avec ses enfants et de Chopin à Majorque, hein, vous m'avez dit hors micro qu'on dit pas Majorque, mais Majorque, donc oui. je note. Un des motifs aussi du voyage, c'était la maladie du jeune garçon, je crois. Il était malade, et Chopin aussi, donc qui vous pensait soigner ses poumons, comme vous
l'avez dit. C'est une des raisons, oui. Et d'ailleurs, ça marche à l'arrivée, parce qu'il y a quand même, on dit toujours, c'est un drame, ce voyage, mais pas du tout. Au départ, ils ont beau temps, l'endroit est merveilleux, Chopin l'écrit, le dit, et tout va bien. Ça se gâte au bout de quelques semaines, et puis il y a le rapport aux Espagnols qui compliqué.
Ben voilà, c'est ça. Il y a deux choses. Il y a la météo qui contrarie un peu le voyage. Oui. Apparemment, il fait froid et il pleut beaucoup. Oui. Donc, Chopin tombe malade. Et plusieurs fois, quand même, vous lui prêtez des mots assez peu amènes envers les Espagnols. Les gens, les maudits Espagnols, ils le traitent vraiment comme un pestiféré. Tout ce qu'il touche, il faut le brûler. Ça,
c'est la vérité.
Ça fait un peu penser aujourd'hui, presque.
Ben, un peu, oui.
Oui.
Oui, parce qu'il a la phtisie, donc la tuberculose, et c'est très, très contagieux à l'époque. Ils ne font que des choses normales, mais Georges Sand en particulier, c'est elle qui tient sous tous ses propos, le prend de manière très virulente. Et donc ils sont vite détestés en plus par les Espagnols du coin. Voilà, donc l'ambiance n'est pas au beau fixe.
Ouais, ouais. Et Chopin donc, et Georges Sand sont installés dans cette chartreuse de Valdemossa, et donc il reçoit un piano sur lequel il peut, un petit piano sur lequel il peut travailler, donc c'est là quand même, donc sur l'île, qu'il va achever son cycle des 24 préludes.
Il va, à mon avis, en concevoir vraiment ce qui en fait la totalité, l'unité, mais il en composera qu'environ un tiers. On doit ça grâce à mon ami Jean-Jacques Hagelinger, monsieur Chopin dans le monde, qui a enquêté de façon très musicologique là-dessus.
Ouais.
Et Chopin a composé environ un tiers des préludes, sans doute à majeur, qu'on sait à peu près lesquels, mais le reste, c'est des choses qui existaient un peu avant sous forme d'ébauche. Mais en tout cas, il les termine, il les clôt, il les conçoit, à mon avis, avec cette forme très moderne, à cette époque-là, là, à ce moment-là, et il le dit à Fontana, il le dit à Pleyel, voilà, et là, toute l'affaire est bouclée. Mmh. C'est vraiment l'œuvre de Majorque, en ce sens, les préludes. Et puis surtout, avec ce côté tragique correspond vraiment. Parce qu'à Majorque, il a composé aussi une polonaise en ut mineur, une mazurka en mi mineur, d'autres pages qui sont très noires. C'est vraiment quelque chose qui révèle Chopin à lui-même, cette période-là. C'est la période de Majorque, elle dure que quelques mois, mais on peut dire que c'est une période dans l'art de Chopin, comme il y aura celle de Nohant et celle de Paris.
Mmh. Justement, Jean-Yves Clément, vous dites que cette période de Majorque est très, très sombre, en tout cas l'essentiel de ces préludes qui sont très brefs, hein, je crois que la moitié dépasse, ou le tiers peut-être, atteint à peine la minute. Vous avez parlé de la nouveauté de la forme. Est-ce que, par exemple, auparavant, comme les bagatelles de Beethoven sont déjà des pièces très, très concentrées?
Ça, c'est des miniatures. C'est pas des aphorismes. Avec Chopin, il y a un geste nouveau qui arrive dans l'histoire de la musique, que Liszt reprendra à la fin de sa vie, et puis l'école de Vienne aussi, et c'est plutôt de cet ordre-là, à mon avis, dont il s'agit. Chez Beethoven, il peut y avoir un petit peu cette conscience-là, dans l'opus 119, par exemple. Mmh. Ça pointe, comme tout point chez lui, de toute façon. Hein, mais pas la façon dont Chopin l'exprimera, à mon avis, de manière inconsciente, d'ailleurs. Mais il découvre quelque chose.
Mmh.
Et Liszt le dira, et Schumann aussi. Hein.
Mais alors, vous expliquez, dans la bouche de Chopin, donc Jean-Yves Clément, que vous évoquez ses sombres humeurs, la noirceur de Chopin, mais également, il y a quand même certains préludes qui sont plus lumineux, on a pu l'entendre sous les doigts de Maurizio Pollini, et vous dites qu'en fait, que cet ensemble 24 doit s'entendre comme un tout, et que les préludes s'éclairent les uns les autres, et qu'il serait idiot de piocher dedans un peu au hasard, qui ne sont pas conçus pour s'écouter indépendamment.
On s'en rend compte, parce que ça ne fonctionne pas, même si des pianistes illustres l'ont fait, mais d'autres non. Busoni, à la fin du 19e siècle, est le premier à enregistrer la totalité des préludes. Lui, il a compris la modernité du cycle. Mais il y a quelques préludes qu'on peut enlever, à la limite, comme la goutte d'eau, des choses comme ça, c'est qui passent tout seul, mais il y en a beaucoup, comme le premier, où c'est inenvisageable. Comme quoi Chopin pense bien autre chose, il pense à une suite, il pense à un enchaînement, il pense à un tout, et à la fin, avec ce prélude tragique qui termine, on a vraiment l'impression qu'il cloue son propre tombeau et le cycle avec. Donc oui, pour moi c'est vraiment une erreur, d'ailleurs on le fait quasiment plus, de ne pas les jouer en totalité. C'est un geste comme sont les variations d'Abélie, les variations Goldberg, c'est les variations de l'âme de Chopin. En 24 chapitres.
Geneviève Clément, est-ce que vous avez l'impression donc, que ce cycle des 24 préludes de Chopin, est-ce que le compositeur était conscient qu'il s'opérait un basculement dans son œuvre après la période de Paris, donc où il arrive à l'âge de 20 ans après avoir quitté la Pologne en passant par Vienne? Est-ce qu'il est conscient qu'il... Il y a vraiment, sa musique change d'orientation.
Je sais pas si un créateur peut être vraiment conscient de ça, mais en tout cas, c'est sûr que la sonate funèbre qui va accoucher à Nohant vient de là, par exemple. Et là, il ne peut pas avoir senti une brisure dans son âme, mais aussi dans sa musique. Donc, je pense qu'il sent quelque chose qui vire de bord. Il sent surtout qu'il ne reverra aussi jamais sa Pologne, peut-être jamais sa famille, qu'il va peut-être mourir là-bas et qu'il y a tout ça qui s'éveille. Mais oui, son style évolue. Mais déjà avant, il y avait eu des petites choses, hein, des études violentes, un premier scherzo qui préfigurait. Mais l'ambiance de Majorque est vraiment à part. Et d'ailleurs, on le sent bien, parce qu'à Nohant, au début, il va y avoir un contraste fabuleux avec cette musique-là. Et quelque chose qui va aller vers Debussy, Fauré, Ravel, un art du crépuscule. Là, on n'est pas du tout là-dedans, à Majorque. Mm-hmm. On est dans le romantisme noir et dur.
Mais alors, est-ce que, puisqu'on n'évoque ce faux journal que vous avez eu l'audace de rédiger, Jean-Yves Clément. Est-ce que ces préludes pourraient également être considérés comme autobiographiques ou est-ce que Chopin compose en dehors de tout, sa musique est conçue en dehors de toute circonstance personnelle?
C'est une bonne question parce que c'est toute l'ambiguïté de Chopin. C'est une musique qui n'est pas biographique. Pour moi, elle est vraiment assez abstraite et pure. Finalement, est-ce que celle de Mozart est biographique, hein? Est-ce que la grande musique est biographique? Parfois, oui. D'ailleurs, chez Beethoven, elle peut être géniale et biographique. Mais là, non. Et oui, parce que George Sand dit quand même que les préludes témoignent des moments de joie, de bonheur, de choses qui leur arrivaient, qui parvenaient, et puis de drames aussi. Mais en même temps, je crois que ça suffit pas, de toute façon, à expliquer, éclairer quoi que ce soit. Je pense que ce qu'il porte de noir dans son âme, il l'a porté partout de tout temps. C'est qu'à Majorque, tout se cristallise. C'est tout. Ça aurait été le cas peut-être ailleurs autrement. On ne sait pas, tout ça reste mystérieux.
Orchestre en mi mineur de Frédéric Chopin, interprété par Jean-Marc Louisada, Jean-Yves Clément, une des œuvres donc composées à Majorque par Chopin en plus de ses préludes.
Précisément, on voit que c'est pas une mazurka comme une autre, plutôt un fantôme de mazurka très déchiré, et déchirantes, repliées sur elles-mêmes.
Ouais. Fantômes, hallucinations également, qui apparaissent dans ces préludes, vous le répétez assez régulièrement.
Oui, c'est ce que raconte aussi George Sand, mais ça s'entend, oui. Chopin peut être un être en proie aux hallucinations, et la sonate funèbre témoigne de cet esprit-là, mais aussi quelques-uns des préludes et des pages d'avant. C'est à Stuttgart, quand il apprend l'insurrection de Varsovie, Chopin écrit des choses tout à fait hallucinées.
Jean-Yves Clément, ce cycle de 24 préludes est un hommage évidemment, et vous le rappelez bien sûr, à Bach et à Mozart. La forme est nouvelle, inhabituelle, vous nous l'avez expliqué. Donc c'est fait pour être joué dans son intégralité. La plupart des préludes n'ont aucun sens, joués sans les autres, écrivez-vous. Et vous avez évoqué, avant que nous écoutions cette mazurka, le romantisme. Un mot fait dire à Chopin ce fichu romantisme, c'est-à-dire qu'il se sentait mal dans son époque, il aurait préféré vivre au XVIIIe siècle au temps de Mozart.
Ah, certainement, oui, c'est ce qu'il partageait avec Delacroix, qui est pourtant diablement romantique, mais tous les deux se considéraient comme des classiques.
Comme des classiques, ouais.
Et détestaient la débauche romantique, par exemple, d'un Berlioz, même d'un Verdi, d'un Wagner. De toute façon, Chopin n'aimait personne, à part Bach et Mozart et Delacroix, qui était plus un ami qu'un peintre pour lui. D'ailleurs, oui, c'est quelqu'un d'étrange et d'étranger à son monde. Donc, il se rend pas compte de ce qui contient en lui de si déchirant et néanmoins de romantique et de révolutionnaire, il faut le dire. Mais il faut dire que c'est aussi une musique qui se tient parfaitement dans un cadre précis. Et quelque part, il ressemble autant à Couperin, j'en parle aussi,
oui,
qu'à Berg, qu'à Schoenberg. Voilà, il est partout et nulle part, Chopin. C'est un être très étonnant, un peu en serre, comme ça. Tout seul dans cette planète, et tout le monde l'a écrit à l'époque, Sand, mais Liszt aussi beaucoup.
Oui, comme Couperin, Chopin préfère ce qui l'émeut que ce qui le surprend.
Ce qui est de l'ordre de la ciselure, du portrait, de quelque chose qui se tient en peu de notes et qui déborde jamais. Il y a une élégance à la française aussi chez Chopin. Donc il a dit, j'ai fini par les aimer comme les miens, donc n'oublions pas que Chopin est à moitié français, il l'est par son père.
Par son père, oui. Mais est-ce que Jean-Yves Clément, d'après les témoignages que l'on peut recueillir de l'époque, son jeu, comme Chopin pianiste, révélait cette intimité? On sait qu'il préférait plutôt jouer dans les salons, dans des cercles intimes, que dans des grandes salles.
Et sur un Pleyel plus raffiné, moins bruyant, entre guillemets, qu'un Erard, qu'il laissait à Liszt. Oui, son jeu avait sûrement une sobriété, quelque chose de un peu à la Lipatie, sans doute, avec encore moins de puissance, quelque chose de très tenu, de très élégant, très distingué et de très sobre. De toute façon, il n'était pas fait pour les grandes salles. Chopin a donné quoi, 20-30 concerts dans sa vie, la plupart du temps dans des salons. Chopin n'est pas un homme de concert, un improvisateur génial. Il aurait pu l'être, mais il a laissé ça à Liszt.
À Liszt,
c'est un homme
sûr,
de l'intimité, pour l'intimité. Thank you.
C'était à Londres en 1933-1934, les deux derniers préludes de Frédéric Chopin, interprétés par Alfred de Cortot. Jean-Yves Clément, quelle éloquence hein, quand même ce Chopin de Cortot.
Incroyable, c'est de l'opéra, quelle déclamation, oui, c'est inouï, on joue plus comme ça, hélas.
Alors juste pour terminer, ce journal donc se termine en juin 1839, oui. Après avoir traversé Marseille, Gênes, Arles, Saint-Étienne. Et enfin, est-ce que Chopin va trouver la sérénité à Nohant ?
Ah oui, deuxième vie auprès de Georges Sand, 50 chefs-d'œuvre environ, rendez-vous compte, jusqu'à la fin, puisqu'à Paris, il donnera des leçons, mais il n'aura pas le temps de composer. Donc Nohant devient une terre de création unique dans l'histoire de la musique, pour ça, il faut le dire quand même.
Très bien, merci beaucoup Jean-Yves Clément. C'est moi. Rappelle le titre de votre ouvrage, Le Retour de Majorque, journal de Frédéric Chopin, qui vient de paraître aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Émilie Couette, attachée de production à Annie Caumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.